France Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture, 30 minutes de rencontres et de découvertes en Anjou. Avec moi aujourd'hui pour animer cette émission, Cécile et Dominique. Bonjour.
Bonjour Bénédicte.
Alors, qui connaît l'hôpital Saint-Jean au cœur d'Angers, l'un des plus anciens encore debout de France et qui a assuré sa fonction hospitalière durant près de 700 ans? C'est aujourd'hui l'écrin des tapisseries de Jean Lursa. Et juste à côté, la chapelle de ce même hôpital attenante à la grande salle des malades. Elle est inconnue des Angevins car elle est fermée depuis plusieurs décennies. Mais aujourd'hui, Dominique, vous nous annoncez une grande nouvelle, un lifting de ce joyau du Moyen-Âge, la restauration de cette chapelle. Un chantier de rénovation de 3 années qui nous réserve son lot de découvertes, voûtes, vitraux, décors peints, boiseries, tuffeaux, retables, tout y est exceptionnel. Et bientôt, on l'espère, ouvert au public. On lève le voile sur ce bijou du gothique angevin avec l'architecte en charge du chantier, Claire Ducaire. Des milliers de perles brodées sur un paravent en bois, c'est à la fois de l'ébénisterie et de la haute couture. Un concept unique au monde, Jean Brieux Atelier, niché au centre d'Angers, innove et crée des pièces d'exception mêlant tradition et modernité. Du grand luxe, certes, mais surtout du très beau. Cécile rencontre aujourd'hui Jean Brieux Chevalier, le fondateur de cette pépite. On commence tout de suite avec vous, c'est parti pour 30 minutes ensemble.
Franche Culture, la curiosité sous toutes ses coutures.
Cécile, une haute couture hors norme, la haute couture de l'ébénisterie.
Des broderies de perles ou de fils sur bois rehaussant la marqueterie, des panneaux rubantissés sur une trame de bois fin, on n'avait jamais vu ni imaginé cela. C'est beau, c'est innovant. Et c'est un ébéniste angevin qui s'est lancé dans cette aventure, aujourd'hui couronnée de succès. Jean Brieux Chevalier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez créé l'atelier qui porte votre nom il y a maintenant 14 ans, en 2012. Votre parcours au départ n'a pas été si facile, vous en parlerez après. Mais aujourd'hui, votre créativité est plus que reconnue. Une de vos spécialités qui nous a vraiment marqué, c'est la broderie sur bois, avec cette pièce extraordinaire et emblématique qu'est le paravent mille fleurs. Personne avant n'avait fait ça. Alors décrivez-nous cette pièce et le savoir-faire sous-jacent qui est assez impressionnant.
Cette pièce est effectivement un paravent qui est une inspiration de la tapisserie mille fleurs du Moyen-Âge et notamment une tapisserie qui est exposée au château de Villevêque que j'avais trouvé vraiment fabuleuse.
Ça a été votre inspiration de
complètement,
départ.
Complètement, ouais. C'était le point de départ et donc du coup j'ai voulu faire ma propre tapisserie avec ma technique. Et donc ma technique c'est de la marqueterie, donc c'est des pièces de bois qu'on assemble entre elles et qu'on colle sur un panneau qui forme un décor et après on vient la rehausser de broderie.
Alors c'est ça qu'on n'avait jamais fait avant. Comment on fait pour broder sur une matière dure comme le bois?
En vrai, c'est à la fois magique et en même temps terre à terre quand on explique. Hein. C'est juste qu'on fait tous les trous à l'avance sur le support. Et une fois que les trous sont faits, au fil et à l'aiguille, on vient broder les perles une par une.
Il y a combien de perles sur ce paravent?
Sur le paravent, je crois qu'il y a 300 000 perles. Je crois.
300 000 perles, oui, ouais, c'est impressionnant. C'est une pièce absolument magnifique.
Oui.
On peut la voir actuellement au Musée
Nulle
des
part.
Arts décoratifs, non?
Non. Au Musée des Arts décoratifs, c'est une exposition sur l'Orient Express. Parce qu'on fait les têtes de lit du Nouvel Orient Express. Et donc, on expose. Enfin, c'est pas moi qui expose. Mon travail est exposé. Et on peut voir les têtes de lit en broderie sur bois aussi, oui.
Alors, donc, cette pièce magnifique, on ne peut la voir qu'en photo sur Instagram.
À peu près ça, ouais. Ouais.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, parce que personne n'avait brodé sur du bois auparavant à ma connaissance, comment ça cette idée vous est venue?
Ça vient pas comme ça du jour au lendemain, je me suis pas posé sur une feuille en me disant qu'est-ce que je peux faire de cool, ou... c'est juste que dans mon parcours, à l'origine moi je voulais faire des métiers de la mode, je suis originaire de Brest, et en fait c'est pas quelque chose qui était chez nous, j'ai pas de lien avec ce monde-là et en fait j'ai choisi de partir en ébénisterie parce que c'était plus simple pour moi. Et,
ouais.
Et donc du coup, Bon, j'aimais les ménisteries, donc il n'y avait pas de souci, hein, j'adorais ça. Mais j'ai toujours cousu, j'ai toujours eu une machine à coudre, j'ai cousu
vous
avec ma mère.
Avec votre maman, c'est ça?
C'est ça, exactement. J'ai cousu avec ma mère. Et donc, en fait, mes premiers travaux d'exploration au lycée, quand je faisais mon DMA, c'était de la couture sur bois. Et quand j'ai ouvert mon entreprise, j'ai continué à développer. Et la couture est devenue de la broderie.
Et la couture est devenue de la broderie. En fait, c'est la jonction de deux passions.
Complètement.
Que vous aviez, qui se sont révélés. Ce paravent, cette pièce extraordinaire, hein, j'invite vraiment les auditeurs à aller le voir. On le voit sur Instagram et sur votre site internet.
Ouais. Vous demandez où est-ce qu'il sera exposé.
Ouais.
Enfin, en ce moment, il n'est pas exposé. Par contre, au mois de septembre prochain, il sera exposé à Venise pendant un mois, pendant Homo Faber.
D'accord, donc il faut voyager
aller
à Venise.
Venise.
Il faut voyager à Venise. Non, bon, sinon, sur internet, on le voit.
Ouais.
Cette pièce, vous l'avez créée pour une commande ou c'est une pièce qui est censée représenter le savoir-faire de votre ou par passion?
C'est une pièce par passion. C'est pas une commande. Non, c'est pas du tout une commande. C'est en fait, il y a plusieurs choses qui motivent la création d'une pièce comme ça. Évidemment, la première, c'est de faire quelque chose d'exceptionnel parce que c'est pour ça qu'on a ouvert l'atelier, c'est pour ça qu'on travaille pour faire des pièces exceptionnelles. Donc on travaille dur à côté pour pouvoir financer des projets comme ça. Et après, en toile de fond, il y a aussi tous les deux ans à Paris, il y a le Salon Révélation des métiers d'art qui est au Grand Palais, qui est un grand moment pour les artisans d'art en France. Et donc on l'a fait vraiment dans l'optique de ce salon. Et ensuite, la troisième chose, c'est qu'il y avait le prix Liliane Bettencourt, le prix d'intelligence de la main. Ça, c'est un prix que j'avais envie de gagner depuis 10 ans, depuis que j'étais étudiant. Et donc, j'avais toujours ce prix en toile de fond et on l'a présenté à ce prix.
Et vous l'avez eu.
Et je l'ai eu.
Et vous l'avez gagné.
C'est ça.
Finalement, ce paravent, c'est la carte de visite de Jean Brieux Atelier.
C'est la carte de visite, oui.
Vous allez la garder.
Oui, oui. Bah, oui,
elle rentre pas dans un portefeuille. Mais...
Non, celle-là, on va la garder parce qu'on a toujours besoin d'avoir des meubles pour les expositions. Mais après, on peut la refaire à la commande.
Alors, votre travail a été bien récompensé, mais vous faites aussi beaucoup de créations et d'autres innovations. Il y a une technique qu'on a admirée, les rouleaux tissés. Expliquez aussi aux auditeurs ce que c'est, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais vu avant. Du tissage avec du bois.
C'est ça, c'est du tissage de bois, oui, qu'on fait avec des designers textiles qui s'appellent Lily Alcaraz et Léa Berlier. Elles sont à Paris. On s'est rencontrés la première fois à Révélation en 2019. On a exposé sur le même stand, on ne se connaissait pas, mais on s'est retrouvés sur le même stand et elles sont venues faire des workshops à l'atelier pour qu'on développe du tissage de bois. Et donc, c'est des lames de bois qui sont découpées en forme et qui sont tissées à la main. Et après, qu'on teinte ou qu'on laisse brut et on en fait comme un tissu,
rigide. Posé sur un meuble.
Qu'on pose sur un meuble, qu'on peut utiliser sur les murs.
Sur les
Donc
murs.
On en fait beaucoup pour les boutiques Cartier dans le monde.
Ouais.
Ça, c'est vraiment le gros client en broderie sur bois, en tissage de bois, mais on fait aussi du mobilier. Là, on a deux nouveaux projets pour un hôtel en Toscane, où on fait des grands panneaux qui vont représenter la Toscane, mais avec du tissage de bois.
Oui, vous faites quand même du luxe, voire de l'ultra-luxe.
Oui, plutôt. Vos clients,
vous avez cité Cartier.
Cartier, c'est Orient Express, ça c'est quand même le summum du luxe.
Le summum du luxe,
je pense qu'on
un
peut
grand,
pas faire,
grand marché.
On ne peut pas faire plus luxe que ça, mais après on travaille beaucoup pour Louis Vuitton.
Ouais.
Moi je travaille beaucoup pour le département Objet Nomade, où on fait du développement de meubles pour eux. Mais on travaille pour pas mal de monde chez Louis Vuitton. On travaille, après on a des chantiers assez prestigieux pour des clients, qu'on va dire privés, parce que j'ai pas le droit de dire leur nom, mais pour des Émiratis ou des Ukrainiens. J'étais cette année en chantier en Ukraine 3 fois.
Alors ça me fascine. Ils n'ont pas peur que justement ces belles œuvres soient détruites par une bombe ou quelque chose?
Non, je pense pas. Après, je connais pas bien la géopolitique de ces personnages particuliers avec la Russie, donc je ne pourrais pas dire
s'ils sont protégés,
si protégés
ou pas.
Ou pas. Mais après, pour ce chantier-là, c'était quand même des contrats qui ont été signés avant la guerre.
Ouais.
Ça s'est arrêté au moment où la guerre a débuté, puis au bout de 2-3 ans, quand les choses sont pas redevenues normales, parce que ce n'est pas normal là-bas, mais la guerre, elle est quand même plutôt sur le front et pas trop à Kiev. Donc la vie, elle continue là-bas, comme tout le monde, et finalement, le chantier a repris.
Vous êtes aujourd'hui très reconnu, hein. Vous êtes invité bientôt dans les Émirats Arabes Unis, votre travail est reconnu, mais vous avez démarré avec un petit atelier à Angers.
Exactement.
Comment avez-vous fait pour émerger? comment on démarre pour... Est-ce que votre créativité a été remarquée? Est-ce que c'est de l'innovation? Est-ce que...
Au départ, quand on commence à prendre un atelier, le premier objectif, c'est de payer son loyer, de payer les charges et l'emprunt qu'on a fait pour les machines. Donc, les premiers chantiers qu'on fait, c'est des cuisines, c'est de l'alimentaire, c'est de l'agencement, c'est des choses comme ça. Et puis, après, bon, moi, j'ai quand même une sensibilité qui est très forte pour l'art décoratif. C'est vraiment quelque chose qui m'anime plus que tout. Et donc, dès qu'on commence à avoir du temps, dès qu'on commence à avoir du bouche à oreille, on essaye de faire des choses toujours de plus en plus sophistiquées, de plus en plus abouties.
Et c'est petit à petit que vous êtes rentré dans le luxe et la sophistication.
Oui, bien sûr. C'est vraiment marche après marche. C'est un chantier, on a emmené un autre, et puis ainsi de suite. Et en fait, il y a eu des opportunités qu'on a saisies. Et voilà. C'est difficile à résumer parce que c'est vraiment 13 ans où chaque année, même encore aujourd'hui, on est encore un peu, quand on reçoit des demandes, on est toujours un peu surpris encore de certaines demandes parce qu'on se dit c'est pas possible qu'on nous demande ça. Mais
c'est des demandes qui vous demandent d'être créatif, vous, en fait. On vous demande un peu des exploits.
En fait, je pense que le monde de la décoration, il change, hein, il a changé un petit peu dans les années d'Art déco. Les architectes, ils dessinaient tout, ils dessinaient tous les détails. Et maintenant, aujourd'hui, les cabinets d'architecture, ils n'ont pas ce temps-là. Et donc, du coup, c'est un peu moi, ce que j'appelle le papier peint, c'est-à-dire qu'ils ont des idées, ils déroulent sur papier leurs trucs, et puis après, c'est aux artisans
d'être
créatifs et de dessiner leurs idées à eux. Donc, il faut réussir à interpréter ce qu'ils veulent et de faire en sorte que ça marche.
C'est vrai que là, vous brouillez vraiment la frontière entre artiste et artisan. Hein, vous, là,
Oui, je pense qu'on brouille là, mais je me sens quand même plutôt artisan.
C'est vrai.
Ouais, je me sens artisan plus peut-être, mais pas artiste.
Pas artiste. Non. Pourtant, quand on visite votre atelier qui est magnifique, on voit des pièces où on a vraiment l'impression de voir de l'art. Enfin, nous, ça a été notre sentiment. Donc, on le disait, vous êtes vraiment dans le luxe. Est-ce que aujourd'hui, il est possible de faire de l'ébénisterie, de la belle ébénisterie, sans passer comme vous dans l'ultra luxe? Est-ce qu'il y a encore de la place entre IKEA et l'ultra-luxe?
Oui, je pense. Oui, je pense. Pas beaucoup, mais je pense que oui, il y a quand même des clients qui souhaitent avoir des meubles sur mesure, qui souhaitent quand même avoir des... Bon, après, le monde du bois, il est quand même très, très large. Hein. C'est-à-dire que moi, je fais du mobilier, je fais de la broderie sur bois, la marqueterie, c'est quand même très spécialisé. Mais après, il y a juste la fabrication de meubles aussi, tout. Il y a le restaurateur en meubles, il y a le luthier, il y a le tourneur sur bois, il y a un million de métiers autour du bois et chaque métier sont différents. Donc oui, en ébénisterie, je pense qu'il y a encore de la place.
Il y a encore beaucoup de place.
Il y a deux semaines, il y a un ébéniste qui fait de la restauration, qui est passé nous voir à l'atelier qu'on connaît depuis 10 ans. Et lui, il est ébéniste, il a 3 ans de la retraite, donc il connaît vraiment bien le métier d'ébénisterie. Et quand il est venu chez nous, il a dit, oh là, je serais incapable de faire ce que vous faites. Alors qu'il est ébéniste. Et en fait, c'est ça qui est assez drôle, c'est dans nos métiers, on a vraiment...
En fait, vraiment tout à fait le même métier. Vous travaillez le bois, mais pas tout à fait le même métier.
Un très très large panel.
Ouais.
Vos grands projets pour conclure? Vos grands projets pour l'avenir? L'Orient Express.
L'Orient Express, là, on a un nouveau projet pour un hôtel pour lequel on a déjà travaillé en Toscane, qui va bien nous occuper. Après, qu'est-ce qu'on a comme grand projet? C'est Orient Express, le bateau, là aussi, en ce moment. On travaille pour le bateau. Il y a deux.
Ah,
on travaille pour le bateau et le train.
D'accord.
Donc les deux prochaines années sont bien remplies.
Oh, les 3-4, je pense.
3-4 chez Jean-Brieuc Atelier.
Ouais.
Merci beaucoup, Jean-Brieuc, pour nous avoir partagé votre passion et essayer de nous faire percevoir la beauté de vos créations.
Avec plaisir.
Merci, Cécile et Jean-Brieuc, pour cette découverte. Donc, si vous souhaitez découvrir son travail, Jean-Brieuc Atelier, le site internet et la page Instagram, et puis au Musée des Arts Décoratifs à Paris, avec une exposition des maquettes en taille réelle pour le nouvel Orient Express. On fait une pause musicale avec Thomas Dutronc, et puis restez avec nous pour plonger dans le Moyen-Âge avec la redécouverte d'un bijou à Angers, jusqu'ici caché, la chapelle de l'hôpital Saint-Jean dans la Doutre et ses magnifiques peintures. Thank you.
chercher des formes dans les nuages ou la mer dans les coquillages. Ne plus penser au lendemain, se balader sur les chemins, peindre en couleur des nuits blanches, prendre la vague sur sa planche, écouter tard un concerto, un mot d'amour sur le frigo. Si c'était ça le bonheur, juste un instant, un coup de cœur, y a tant de larmes, tant de malheurs, laisse pas passer les petits bonheurs. Ouvrir un bon Saint-Émilion, chanter des conneries dans les bouchons, avoir son chat sur les genoux, les étoiles filantes au mois d'août, allumer le feu, cheminer, offrir un livre qu'on a aimé, main dans la main se promener, et puis t'embrasser sur le nez, enfin revoir le printemps, et lui offrir un bouquet de fleurs, enfin laisser le temps au temps, chercher midi à 14h, si c'était ça le bonheur, juste un instant, un coup de cœur, y'a tant de larmes, tant de malheurs, laisse pas passer les petits bonheurs. C'est trois fois rien, le bonheur, juste un instant, un coup de cœur, y a tant de larmes, tant de malheurs, n'est-ce pas passé les petits bonheurs, une petite bulle, vite envolée, cheveux au vent. J'ai volé au fond la vie, ce n'est que ça, trois petits tours, et puis s'en va.
Dominique, un grand chantier de restauration est en cours d'exécution à l'abri des regards. Depuis plusieurs mois, on remet en valeur un joyau de l'architecture religieuse angevine. Vous nous détaillez toutes les données de l'opération, y compris la mise à jour de ses décors peints. C'est avec votre invité, l'architecte Claire Duquers, que nous allons lever le voile sur ces trésors. Merci d'être avec nous en studio aujourd'hui.
Le patriarche du patrimoine.
L'ancien hôpital Saint-Jean, c'est dans la Doutre, c'est donc la rive droite de la Maine. C'est un important témoignage de l'architecture hospitalière du Moyen-Âge. Il est composé à la fois de la salle des malades, c'est elle qui abrite la tapisserie de Jean Lursa, dénommée le Champ du Monde, mais il y a aussi la chapelle, le cloître et en surplomb les greniers. Il manque néanmoins aujourd'hui, et ça a malheureusement détruit au fil des siècles, la maison du prieur, les cuisines et le réfectoire. Ce grand établissement est né à la fin du XIIe siècle, financé par Henri II Plantagenet. Il était roi d'Angleterre, mais il devint aussi comte d'Anjou. C'est lui qui lance en même temps la construction de l'hôpital Couëfort au Mans. À Angers, on a compté jusqu'à 660 lits. Les bâtiments présentent une caractéristique architecturale rare, car c'est l'époque où les maîtres maçons locaux ont développé une technique de montage des voûtes très élaborée, grâce à la légèreté de la pierre de tuffeau. Et cette technique portera le nom de son commanditaire, puisque les historiens les ont dénommées voûtes plantagenais. La chapelle dont nous allons parler, elle est attenante au cloître et à la salle des malades. C'est une grande salle carrée avec deux piliers élancés. Dans un établissement hospitalier, la salle des malades, c'est bien sûr le soin des corps et la chapelle, c'est le soin de l'esprit. Elle échappe, cette chapelle, depuis plusieurs décennies au circuit de visite en raison des travaux de sécurité. Mais la ville d'Angers, qui en est le propriétaire, vient de lancer une grande campagne de restauration. Elle est conduite par l'architecte Claire Duquers. Bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui co-dirigez ce chantier pour l'agence Poste à Nantes. Et l'agence est spécialisée dans la restauration du patrimoine. Pour commencer, est-ce que les travaux que vous avez engagés pour le compte de la ville d'Angers ont permis de révéler certains éléments de l'histoire qui étaient encore un peu méconnus concernant cette chapelle ?
Oui, effectivement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la chapelle comporte pas mal de différents types de décors, donc des décors peints, mais aussi des boiseries qui sont très imposantes. C'est les boiseries qui datent du XVIIIe siècle. Et en fait, c'est au XVIIIe siècle où il y a eu un grand changement et dans le décor de la chapelle, mais aussi dans l'orientation de la chapelle. Donc la chapelle qui était d'origine orientée vers l'est,
comme toutes les chapelles,
oui. Cette orientation a été modifiée pour s'orienter en direction sud-nord avec un chœur rétabli côté nord.
Est-ce que c'était pas pour permettre aux malades d'assister aux offices plus facilement ?
Je pense pas.
Non.
Je pense que c'était vraiment un choix esthétique. Et en fait, ce qu'on a quand même pu déterminer, c'est que la chapelle à l'origine, au XIIe siècle, elle a été cloisonnée. Donc il y avait plusieurs espaces dans la même chapelle. Et cette trace-là, on a justement pu retrouver quand on a commencé à déposer les boiseries 18e. Et c'est justement cette dépose des boiseries qui a permis de voir toutes les stratigraphies de couches de décor qui étaient encore présentes sur les élévations derrière les boiseries. Et qui nous a permis de mieux comprendre donc et le cloisonnement, parce qu'on voyait très bien l'implantation des cloisons, des colonnes par exemple qui avaient été bûchées pour pouvoir mettre les boiseries et la tribune, et également de voir qu'il y avait vraiment plusieurs décors successifs. Donc il y avait un décor 13e à la base, donc début 13e à peu près, des décors 15e, des décors 17e et même un peu plus récentes. Quand ils ont fait le changement de décor, donc avec la pose des boiseries, tous ces décors peints ont été badigeonnés.
D'accord.
Pour faire vraiment une élévation très neutre.
Est-ce que l'accès à cette chapelle, c'est toujours fait par la même porte ?
Non, justement, en fait, la porte romane d'origine, qui se trouve un peu plus loin dans le cloître, elle était plus loin de la salle des malades. Elle a été en utilisation pendant assez longtemps, mais c'est plutôt au 17e à peu près. Pour l'instant, c'est encore un peu sous discussion par les historiens. C'est à peu près au 17e où ils ont percé une autre porte plus près de la salle des malades, justement pour avoir un accès plus aisé.
Ouais. Et là, deux petits mots concernant la tribune qui vient surplomber l'ensemble de ce grand volume.
Donc c'est une tribune qui est assez imposante, elle est supportée par deux grandes cariatides, donc des sculptures de femmes qui tiennent la tribune. Pour accéder à cette tribune, donc ils ont dû construire un petit tourelle qui était implanté dans la salle des malades, donc il y avait un accès depuis la salle des malades vers la tribune. Et il y avait une sorte de claustra posée sur la balustrade qui permettait aux personnes qui étaient présentes sur la tribune de rester cachées de la vue. Et en complément de cette tribune principale, donc côté sud, il y avait une autre petite tribune côté ouest. On nous a dit que c'était pour que les filles qui venaient assister à la messe, donc les filles qui étaient là pour aider aux soins des malades, qu'elles pouvaient accéder à la chapelle et pas être vues par les personnes de la chapelle.
Donc, beaucoup d'indices nouveaux permettant de raconter encore plus finement l'histoire de cette chapelle.
Oui.
Elle était fermée donc depuis très nombreuses années pour des problèmes de sécurité. Quels étaient les problèmes liés aux structures de la charpente, de l'édifice, pardon ?
Il y avait une crainte par rapport aux voûtes, parce qu'effectivement, il y avait quelques fissures qui s'étaient montrées, des ouvertures, il y a un déchaussement général de certains voûtins. Et surtout qu'il y avait une chute de matière, donc il y avait une chute de mortier. Finalement, on a fait une analyse au scan
des déformations.
C'est le bureau d'études qui s'est prononcé là-dessus. Il y a eu très peu de déformations des murs gouttereaux. Et en fait,
Boutreau, c'est périphérique.
C'est, ouais. Oui, tout ouais. le mur ouais. externe. Ouais. Et en fait, maintenant qu'on a pu monter l'échafaudage pendant les travaux, on a bien vu que les voûtins sont très stables. Elles sont déformées, déchaussées par rapport aux nervures, mais elles sont restées très stables et en place. Donc, il n'y a pas de déformation continue. C'est une déformation qui a dû se faire assez rapidement après la construction et qui est restée stabilisée en cet état.
Donc, les nervures sont tellement fines qu'elles se sont effectivement assez facilement déplacées au fil des siècles.
Peut-être, ouais. Soit au fil des siècles, soit assez rapidement après la construction. Pour l'instant, on essaie encore un peu de comprendre comment ça s'est...
Donc, il n'y a pas eu de remontage ni de dépose partielle des voûtes?
Non, on ne pense pas, non.
Le chantier a consisté donc à la stabilisation par... Quelle méthode?
De notre côté, on a fait très peu d'interventions. Il y avait quelques lacunes. Donc, c'était vraiment un comblement des lacunes.
Des joints.
Des joints, justement, parce que le mortier qui s'était effrité, c'était finalement par un assèchement de l'air à l'intérieur de la chapelle suite à la pose d'un système de chauffage qui avait été mis en route il y a quelques décennies et qui a dû assécher l'air dans la chapelle. Et même, ça a dû faire souffrir aussi les décors. Donc, ça, on a mis en arrêt. Et du coup, on a rejointoyé.
Simplement rejointoyé. Ouais, ouais. Donc, c'est un grand nettoyage. Il n'y a pas eu de restauration lourde.
Non. Nettoyage et aussi, en fait, les voûtes, elles avaient été badigeonnées. Donc, au 18e, quasiment, on pense à peu près en même temps que les élévations.
Alors, ça, c'est la grande découverte, justement, de votre chantier. C'est-à-dire qu'on a découvert dans cette chapelle des décors qui n'étaient pas apparents. Donc,
sur les voûtes,
soupçonner, mais qu'on n'identifiait pas précisément.
Justement, oui, on avait identifié sous les badigeons donc un faux appareillage rouge, donc des traits qui suivent en fait les joints des pierres, mais aussi des clés de voûte qui étaient complètement polychromes et qu'on a pu dégager entièrement, restaurer les polychromies et même remettre en dorure les parties qui étaient à l'origine dorées.
D'accord. Donc, si on retrace l'histoire de ces peintures sur l'ensemble de l'édifice, on a combien de périodes qui se superposent? Donc, vous dites, il y a une première intervention début 13e, c'est-à-dire une cinquantaine d'années après la construction de l'édifice.
Oui, à peu près. Oui.
Et puis après, on passe...
C'est encore un peu tôt, mais on a en tout cas des traces de décors du 15e. On a des litres funéraires qui sont à peu près de la même période. On a des décors 17e et peut-être quelque chose entre les deux, mais c'est sur un mur où on a encore besoin de faire des sondages. Donc, c'est à peu près la grande période de décors.
Et 18e siècle aussi?
18e, on n'a pas de décors peintes.
Pas de décors peintes.
Non, juste les badigeons.
C'est ça, on repasse à une formule. L'ensemble de l'édifice doit apparaître avec une teinte de pierre.
Oui, en fait, on met l'accent sur les autels. Donc, il y a un nouvel autel qui est construit, maître autel, deux retables et sur les boiseries. Et en fait, tout ce qui est parement-pierre va être complètement neutralisé. Les parements à l'origine et les parties hautes, c'était de toute façon pas peintes.
Oui.
C'était les parements-pierre.
C'est un grand classique dans l'histoire de l'architecture. On retrouve ça sur le portail de la cathédrale.
Ouais.
On peint d'abord et puis en fait, au XVIIIe siècle, on vient tout badigeonner parce que, peut-être par lassitude de voir ces peintures, en tout cas, parce que c'est dans l'esprit du temps de tout remettre dans un ton de pierre.
Mmh.
Est-ce qu'il y a des projets qui vont venir parachever cette restauration? Est-ce que déjà on parle de réaffectation de lieux culturels dans cette chapelle?
Il y a plein de possibilités. Là, l'objectif, c'était de la remettre en état pour permettre, en fait, de poursuivre le parcours du musée dans la chapelle. Donc, la chapelle en soi est déjà un espace qui vaut la peine de visiter. Après, là, nos aménagements qui vont suivre vont permettre aussi de l'utiliser en tant que salle de concert, pour faire des concerts ponctuels pour un public d'à peu près une centaine de personnes.
Il n'y a pas de problème d'issue de secours, non?
Non, justement, ça, c'est les choses qu'on va mettre en place par rapport à une manipulation des portes, les issues de secours, toutes les précautions qu'on doit prendre pour un accès au public, donc aussi tous les sujets d'accessibilité.
Donc ça, c'est ça plutôt une chapelle tournée vers la musique dans son futur affectation.
C'est une des pistes, surtout parce que la chapelle a apparemment un très bon acoustique et elle se prête très bien à ce type de...
Donc visite évidemment, et c'est très important de faire comprendre aux visiteurs que dans un établissement hospitalier, il y a toujours une chapelle et qu'aujourd'hui, ce n'est pas limité à la salle des malades, mais qu'il y a aussi cet équipement extrêmement important.
Oui.
Ça participe de la vie et surtout, elle donne sur le cloître. Mm-hmm. Donc en fait, cette chapelle, son accès se fait naturellement par le cloître.
Oui.
Et non pas comme aujourd'hui, directement depuis l'extérieur.
Oui.
Donc c'est un atout important. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de chiffres concernant cette restauration?
Oui, en TTC peut-être, hein, donc on est sur une opération globale d'à peu près 2 300 000.
2 300 000 euros.
Oui, globalement. Et première tranche qui vient de s'achever, elle était autour de 890 000 euros.
Oui.
Deuxième qui est en cours actuellement, c'est à 650 000. Et après, il y aura une troisième tranche autour de 840 000 euros TTC.
Et ça, nous devons le rappeler, c'est la ville d'Angers, bien sûr, qui est maître d'ouvrage du projet,
ouais.
Avec évidemment des aides de l'État,
l'État.
Et peut-être d'autres collectivités également. Ouais. Est-ce qu'on a une idée de la date à laquelle on réouvrira cette chapelle à la visite? Non.
Pour l'instant, non.
Je crois qu'il y a des discussions importantes concernant justement la manière dont on va présenter toute cette superposition de couches picturales sur les différents éléments de l'édifice.
Mmh. Oui, tout à fait.
Les discussions n'ont pas encore abouti.
Les discussions sont en cours, mais elles sont très intéressantes parce qu'effectivement... chaque découverte nous pousse un peu à prendre position. Effectivement, on a tous nos affinités avec certains types de décors, mais on doit quand même réfléchir à une globalité. Et c'est aussi en travaillant sur la restauration, en restaurant d'autres parties du bâtiment, qu'on trouve des idées et des argumentations pour privilégier une telle ou une telle couche de décor. Là, on est très impatients parce qu'il y aura une intervention sur le mur est où il y a le plus de décors en fait visibles. Une intervention de nettoyage d'abord. Donc, je pense qu'après le nettoyage, on va bien voir l'état des choses. On va avoir plus de.
Et on n'a pas parlé, ça c'est pourtant important, des vitraux qui équipent les baies.
Oui.
Il y a combien de grandes baies dans l'édifice?
Il y en a 9.
9, ah oui, ouais. 9 de grandes baies, ouais. Toutes hauteur, sans réseau intérieur. Donc c'est une...
Non.
Et actuellement, il y a des vitraux de quelle nature?
En fait, justement, il y en a plusieurs qui ont juste été remplacés par des vitraux contemporaines. Il y a 3 baies qui sont très intéressantes, parce qu'il y avait 3 vitraux qui étaient implantés dans ces baies-là, qui étaient des vitraux recomposés, donc avec certains panneaux 13e, d'autres panneaux qui étaient des recompositions complètes, donc en utilisant des petits morceaux en fait, provenant d'autres vitraux et en reconstituant un autre type de géométrie. Et justement, il y a eu une étude assez intéressante sur ces vitraux-là pour un peu déterminer la datation des différents panneaux, différents éléments qui étaient mêlés dans cette mosaïque. Et justement, c'était une mise en plan qui date du XVIIIe siècle. Et c'est assez rare de retrouver un vitrail dans ce type de mise en scène avec un réseau de plans qui date encore du XVIIIe. Donc ça, on va bientôt travailler sur la restauration de ces vitraux-là.
Claire Duquerce, merci infiniment d'être venue jusqu'à Radio Campus pour nous raconter ce grand chantier de la chapelle de l'hôpital Saint-Jean. Merci beaucoup.
Claire et Dominique, merci. Si cette rénovation vous intéresse, il y a énormément de publications à suivre sur Internet pour le patrimoine Pays de la Loire. Beaucoup de publications. C'est la fin de ce Franche Culture, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci à Étienne pour la technique. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h et le dimanche à 11h ou bien sûr en podcast. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.